Donc notre lecture ce matin se trouve à la page 621 dans les Bibles blanches, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Et on va lire les 12 premiers versets de ce chapitre ensemble. Mais avant de lire, je vais prier. Prions. Merci à notre Père de ce que tu nous parles par ta parole. Cette parole est efficace. Cette parole est puissante, elle nous a conduits à la foi, nous a convertis, elle nous nourrit, elle nous éduque, elle nous corrige. Et Père, nous voulons te demander de nous parler ce matin, agis parmi nous ce matin par ta parole, au moyen de ton esprit. Applique cette parole à nos cœurs par ton esprit ce matin. Nous avons besoin de mieux te connaître, pour mieux te suivre, pour mieux t'aimer. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Au verset 1, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Oui, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le d'eux-mêmes pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous avons affaire un passage qui n'est pas simple, mais un passage qui est très pertinent pour nous tous. C'est un passage qui, comme nous le verrons, a des ramifications très pratiques pour nos vies. En effet, Jésus, à son habitude, n'y va pas par quatre chemins. Et en même temps, il est un chirurgien d'une grande finesse, parce qu'il est capable de disséquer nos cœurs malades avant d'appliquer des remèdes efficaces qui ont toujours le but de nous aider à adorer Dieu d'un cœur sincère. Alors dans cette section du sermon sur la montagne, donc on est dans ce sermon de Jésus qui a commencé au chapitre 5, et dans cette partie de son message, Jésus est en train de nous montrer tout ce qui peut détruire notre relation avec notre bon Père céleste. Pile poil au centre de ce sermon de Jésus se trouve la prière de Jésus. On l'a vu il y a quelques semaines, la prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. Et cette prière nous montre que la vie dans le royaume, ou bien la vie chrétienne tout court, a pour centre cette relation avec notre bon Père céleste. Et ça par Jésus lui-même. Mais cette relation avec Dieu est souvent mise à mal par notre péché, par notre rapport au monde. Trop souvent, l'attrait de ce monde prend le dessus, et du coup, notre relation avec Dieu est pour le moins gravement atteinte. La semaine dernière, nous avons parlé de nos inquiétudes, de nos angoisses. Et ces angoisses ont pour cœur un mensonge qui nous dit que notre bon Père céleste n'est pas là, ou qui ne se soucie pas de nos besoins. Et Jésus a débusqué le mensonge athée au centre de nos inquiétudes. Et ce matin, nous entamons le chapitre 7. Et encore une fois, c'est la connaissance de Dieu, notre Père céleste, qui est en vue. Il nous faut cette connaissance de Dieu si nous voulons avancer dans la foi, si nous voulons éviter ces écueils, ces pièges. Et ce matin, nous allons voir un peu en filigrane que Jésus veut nous montrer que notre bon Père céleste est aussi notre juge. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Ce n'est pas simple de voir les liens entre les différentes parties de ce passage, mais je pense que peut-être le maître mot de ce passage, c'est la générosité. Et en particulier, la générosité de Dieu le Père. Puisque Dieu a été et continue d'être si généreux envers nous, lui, il nous demande, lui, notre juge, d'être généreux avec tous ceux qui nous entourent. Alors, dans un premier temps ce matin, nous allons voir que Jésus nous exhorte à avoir un cœur qui pense et qui parle généreusement. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir que Jésus nous exhorte à avoir un cœur qui aime généreusement. On va passer le clair de notre temps sur le premier point. Donc, un cœur qui pense et qui parle généreusement. C'est les versets 1 à 6. Et là, au verset 1, nous lisons, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » Voici un verset qui est très souvent cité. On m'a dit qu'aux États-Unis, ce verset est même plus cité que Jean 3,16. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » C'est un verset qui est souvent mal cité, en tout cas souvent très mal compris. C'est un verset qui est très cité parce qu'au premier abord, il semble être si en phase avec notre culture, la culture actuelle. Nous vivons une société qui a en horreur toute évaluation morale, tout jugement moral. Un des slogans des années 60 était « l'interdiction d'interdire ». Et nous vivons une société qui, sur le plan moral, est très permissive. Et qui, même si elle veut être tolérante, ne peut pas tolérer des remises en cause de sa moralité libertaire. Or, si Jésus nous interdit de faire des jugements moraux, bah, ça nous arrange bien. Ainsi, personne ne peut me dire ce que je peux faire, ou ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire. Ça ne concerne que moi, finalement. Ou bien sur le plan de la psychologie. Il y a un concept qui a gagné du terrain ces dernières années et qui a même infiltré la pensée chrétienne de manière assez large. C'est ce qu'on appelle le regard positif inconditionnel. C'est d'un psychologue qui s'appelle Rogers. Selon les psychologues et peut-être quelques conseillers en relation d'aide qui y adhèrent, le patient, s'il va guérir, a besoin d'être accepté sans évaluation morale. On doit toujours avoir un regard positif sur le patient. Son comportement, ses choix moraux ne doivent jamais être questionnés, sujets à des commentaires négatifs. Aucun jugement n'est permis. Et dans les milieux chrétiens, on christianise cette pensée en disant que Dieu nous accepte tel que nous sommes sans exigence aucune. Dieu aurait un regard positif inconditionnel sur le pécheur. Alors, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Mais ça fausse aussi les notions bibliques de repentance et de foi, et aussi la sainteté de Dieu. Ce verset « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé » est souvent instrumentalisé. Vous avez sans doute entendu des chrétiens qui utilisent ce verset quand vous essayez de leur donner quelques conseils, peut-être une exhortation. « Ne me jugez pas !» « Qui êtes-vous pour me juger ?» Et c'est vrai, c'est assez désarmant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment comprendre ce que Jésus nous dit? Et d'autant plus qu'ailleurs dans les Écritures, nous sommes appelés à encourager, à avertir, à exhorter, à exercer la discipline d'Église. L'Évangile de Matthieu va en parler au chapitre 18. Dans un contexte où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à ne pas tolérer le péché parmi eux, Paul leur a dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger ?» Et plus loin au chapitre 7, juste quelques versets plus tard dans notre chapitre, Jésus nous exhorte à reconnaître les faux docteurs et à agir en conséquence. Alors comment comprendre ce que nous lisons dans ce passage ? Alors le mot grec traduit par le mot français « juger » dans notre passage de ce matin a une gamme de significations. Alors il peut être simplement une question de jugement judiciaire, l'action d'un juge. Il peut être question d'une préférence, le fait d'émettre une préférence. Il peut être question d'une condamnation, d'une critique très sévère, négative. Il peut également renvoyer à l'idée de l'évaluation, de la réflexion. Alors l'étude des mots avec un dictionnaire est toujours d'utilité assez limitée parce que c'est le contexte qui nous montre le plus souvent quel est l'usage que l'auteur en fait. Et au verset 3 et 4, Jésus illustre ses propos. Et son illustration explique ce qu'il veut dire. Et Jésus nous parle de manière très imagée. Verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?» Et quelle est la conclusion de Jésus ? Verset 5, « Hypocrite, hypocrite. » Alors quand Jésus nous exhorte à ne pas juger, en fait Jésus nous parle d'un jugement hypocrite. Il dénonce l'hypocrisie qu'on peut avoir dans nos jugements. C'est le fait d'être très dur avec autrui et ses fautes, et très doux avec soi-même et ses propres fautes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Un livre que je lisais dans la semaine d'un pasteur réformé écossais l'expliquait ainsi. On est très souvent dur avec les autres, très critique. Pourquoi? Pour mieux nous protéger. C'est très souvent un mécanisme de défense. Au début, on est peut-être très conscient de notre faiblesse, peut-être de notre incapacité à changer. On est très peu sûr de nous-mêmes et peut-être inconsciemment, peut-être pour mieux cacher ça, mieux se défendre, mieux se protéger, on devient dur avec les autres. Et à force d'être dur avec les autres, on se convainc qu'on doit être quand même meilleur. Et on vit dans l'illusion hypocrite. On commence à jouer un rôle comme un acteur. Ce qui d'ailleurs est l'origine de ce mot hypocrite. Et ce mécanisme de défense utilise ce passage. Si quelqu'un essaie de nous encourager, nous avertir, nous exhorter, c'est le mécanisme de défense qui réagit en contre-attaque. Ce n'est pas moi qui ai le problème, c'est vous. Ne me jugez pas. Qui êtes-vous pour me juger ? La colère monte. L'insécurité parle. L'accusation est lâchée. Vous êtes un hypocrite. Alors peut-être c'est le cas parfois. Mais ironiquement, celui qui emploie cette logique est souvent très dur avec les autres. Il attaque l'autre alors qu'il ne peut pas savoir où il en est dans son cœur. Alors, il y a un exemple de cette hypocrisie aveugle dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de David, du roi David et du prophète Nathan ? Le roi David avait commis des crimes horribles. L'adultère d'abord, il a couché avec la femme d'un autre homme. Et ensuite, il a piloté l'assassinat de cet homme. Et Nathan le prophète a été envoyé par le Seigneur chez David. Et Nathan lui a raconté une parabole. C'est dans 2 Samuel 12. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, tu es cet homme-là. » L'hypocrisie de David était bien cachée, n'est-ce pas? Il s'est enflammé, il était en colère contre ce personnage fictif. Un sens de l'injustice l'animait. Mais en même temps, spirituellement, il était aveugle. Il était aveugle à ce qui se passait en lui. Tellement il jouait un rôle. Il s'était convaincu qu'il était au-dessus de ces choses. Il n'en était rien. L'hypocrisie dans notre jugement d'autrui, un esprit critique, sévère envers les autres, nous dit Jésus, est spirituellement dangereuse. Et dans une église, ce type de jugement peut être partout. Je serais surpris si cela ne nous concernait pas tous à un moment donné, jusqu'à un certain point. Dans notre souhait de nous comparer favorablement aux autres ou de nous rassurer, on peut être tenté de critiquer durement en privé ou peut-être d'abaisser publiquement nos frères et sœurs. On peut le faire de multiples manières, mais le dénominateur commun, c'est qu'on est plus dur avec les péchés d'autrui qu'avec les nôtres. On s'intéresse de près à leurs problèmes, à leurs fautes, tout en passant sous silence les nôtres. Au cœur, il y a cette cécité spirituelle qui se croit illuminée et un endurcissement qui se cache derrière un zèle mal placé pour la justice. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Quel remède existe pour cette maladie de cœur? Car Jésus ne veut certainement pas qu'on en reste là. Alors dans ce passage, Jésus met le doigt sur 2 pistes. 2 pistes qui nous renvoient vers la connaissance de Dieu notre Père. Si nous allons éviter cette hypocrisie dans notre manière de parler d'autrui, de penser dans notre pensée aux autres, à ce qui se passe dans nos cœurs, nous avons besoin de connaître notre bon Père Céleste. Et ce Père est d'abord un juge. Est-ce que vous voyez ça au verset 2? « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Alors c'est vrai, ce jugement pourrait être le jugement de nos contemporains, de manière horizontale. Si on est hypocrite dans notre manière de juger ceux qui nous entourent, si on est très dur, excessivement dur, nous aussi serons jugés très sévèrement par eux. Alors c'est possible que cette lecture soit la bonne, mais en même temps je pense que probablement Jésus parle du jugement de Dieu. Dieu nous voit et Dieu est notre juge. Dans ce passage qui a quelques similitudes avec le nôtre de ce matin, l'apôtre Paul nous appelle à ne pas juger nos frères et sœurs qui ont un autre avis sur quelque chose et qui n'arrivent pas à jouir pleinement de leur liberté en Christ. Et là, l'apôtre Paul nous dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » En fait, nous avons besoin de savoir que Dieu est notre juge. Le Père, nous dit l'évangile de Jean, a remis tout le jugement à Jésus, au Fils. Et même le chrétien rendra compte à Jésus et donc au Père. Il rendra des comptes pour ce qu'il a fait dans la vie, pour ce qu'il n'a pas fait, pour ce qu'il a dit dans la vie, pour ce qu'il n'a pas dit parfois. Certes, le chrétien est justifié. Il n'a pas peur d'être condamné par Dieu, mais il n'empêche qu'il sera jugé par Dieu dans ce tribunal familial. C'est un jugement en famille. Le chrétien connaît Dieu comme son père, mais ce père n'est pas un pantin sucré qui ne discipline pas, qui ne corrige pas, qui ne juge pas. Non, Dieu nous éduque et il va nous juger à l'avenir. Et ce jugement nous aide à garder le cap. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui qui nous aime. Et ce Dieu qui nous aime est également notre juge. Et il voit clair. Il voit notre hypocrisie. Il n'est pas dupe. On ne peut pas jouer un rôle devant lui. Devant les autres, on peut s'enflammer. On peut parler de la justice. On peut décrire, on peut critiquer, on peut dénoncer. Même accuser d'autres d'hypocrisie en leur disant qu'ils n'ont pas à nous juger. Mais Dieu voit nos cœurs. Et c'est devant lui que nous devons rendre des comptes. Alors, est-ce que votre conception de Dieu vous permet de le comprendre comme celui qui va vous juger? Si ce n'est pas le cas, votre Dieu n'est pas celui de la Bible. Il n'est pas le Père qui est aux cieux de qui Jésus parle. Mais l'autre piste que Jésus nous donne, c'est la bonté généreuse du Père. Pour combattre l'hypocrisie dans notre manière de traiter autrui, nous avons besoin de connaître la bonté généreuse de notre bon Père céleste. Et nous voyons ça dans les versets qui suivent. Ça commence au verset 7, mais je vais lire à partir du verset 11. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Dieu est un bon Père céleste. Et dans le contexte plus large, nous savons que notre bon Père céleste nous a pardonné. On l'a lu dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons affaire à un Dieu qui nous a montré toute sa grâce. Il a montré de manière on ne peut plus claire en Jésus, à la croix. En Romains 5, un autre livre du Nouveau Testament, nous lisons « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des rebelles. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous a donné le meilleur, c'est-à-dire la paix avec lui, une relation avec lui, une relation avec notre bon Père céleste. Alors comment profiter de cette générosité pour recevoir ces choses? Le chrétien, nous dit le Sermon sur la montagne, doit être convaincu de sa misère spirituelle, de sa pauvreté spirituelle. C'était au début du Sermon sur la montagne. Il a besoin d'être humble. Il a besoin de pleurer sur son péché, de se savoir profondément indigne de Dieu, loin de lui, n'ayant aucun mérite à lui offrir en échange de sa faveur. Et en venant à Dieu de cette manière-là, nous recevons gratuitement, par la grâce, sa faveur, son pardon. Au chapitre 5, dans les Béatitudes, nous avons lu « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et celui qui a reçu la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire sa grâce, sa faveur imméritée, en est transformé. Il sait que si Dieu l'accepte, si Dieu ne le condamne plus, ce n'est pas parce qu'il le mérite, loin de là, mais simplement parce que Jésus a payé le prix. Il vit devant Dieu comblé par cette paix. Il a la paix parce que aujourd'hui, comme dans l'éternité, il sait qu'il aura toujours la faveur de son bon Père céleste. Non pas parce qu'il est à la hauteur, non pas parce qu'il arrive à plaire à Dieu, non pas parce qu'il évite de faire certaines choses dans la vie, mais parce que Jésus lui a gagné cette faveur, une fois pour toutes. Le chrétien est comblé par la bonté généreuse de son bon Père céleste en Jésus. Et cette générosité de Dieu se partage. Elle le transforme pour qu'il la montre à son prochain, à ses frères et sœurs. Alors ce n'est pas qu'il tolère le mal chez son frère, mais il commence avec lui-même. Il reconnaît qu'il n'est pas meilleur, loin de là. Il reconnaît d'abord sa pauvreté spirituelle, sa misère spirituelle. En fait, il enlève la poutre de son propre œil. Le passage ne nous dit pas que nous ne devrions jamais aider nos frères et sœurs à enlever les morceaux de paille dans leurs yeux. En fait, ils en ont besoin. Nous en avons tous besoin. Nous avons besoin de ces exhortations mutuelles, moi comme vous. Mais avec douceur, sans aucun sens de supériorité, sans mépris. Gare à l'hypocrisie, à une attitude où on se considère supérieur. Nous sommes tous si enclins au mal et à l'orgueil. Est-ce que vous avez un esprit critique très dur? Est-ce que vous avez tendance à être plus dur avec les fautes d'autrui qu'avec les vôtres? Alors que faire? Nous avons besoin sans cesse de revenir à Jésus, à la croix, à son pardon. C'est pour ça que nous avons besoin de célébrer souvent la Sainte Cène aussi, parce que c'est quelque chose qui nous rappelle exactement ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Elle nous montre la générosité extraordinaire de Dieu. Alors, très rapidement, j'aimerais dire un mot sur le verset 6 avant de conclure. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense que Jésus nous invite au discernement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se comportent comme des chiens et comme des porcs. Alors, c'est vrai, c'est un langage très fort, très imagé. Et là, Jésus nous avertit. Il veut nous appeler à utiliser nos facultés de discernement. Dans un sens, il veut qu'on juge, mais discerne, il veut qu'on discerne. Or, certains commentateurs parlent de l'évangélisation et de ceux qui rejettent systématiquement l'évangile, la bonne nouvelle. Ils disent que voilà, il faut parfois avancer, passer à autre chose, passer à d'autres personnes, laisser ces personnes, prier pour ces personnes certes, mais passer à d'autres personnes et leur donner la parole. Et c'est ce que Jésus recommande, on le voit dans les évangiles, lorsqu'ils vont de village en village, c'est ce que les apôtres ont fait au début de l'Église. Et c'est bien possible comme lecture pour ce passage. Mais peut-être dans le contexte d'avertissement réciproque, Jésus nous appelle à user de discernement. Oui, celui qui a enlevé la poutre de son propre œil, on peut vraiment lui rappeler cette humilité. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, mais par la grâce, il le fait. Mais cette personne a besoin de la sagesse. Ce n'est pas toujours la peine de continuer à avertir quelqu'un qui s'est tellement aveuglé, qui s'enflamme et qui contre-attaque à chaque fois par des accusations d'hypocrisie. Se servir cette aide d'un frère, dans la douceur peut-être, sera piétiné. Voilà peut-être une lecture possible à vous de discuter entre vous après ou on peut en parler après. En tout cas, on va avancer vers ce deuxième point et conclure. Jésus nous exhorte à avoir un cœur qui aime généreusement. Et je suis au verset 12. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. » Dans un sens, Jésus revient au thème du chapitre 5, aux lois du royaume. Et là, on va un peu sur la fin de sa prédication. On va voir ça dans les semaines à venir. Jésus conclut sa prédication et il commence à résumer les thèmes de sa prédication. Donc, ce n'est pas une surprise. Donc, il revient sur ce thème de la loi et les prophètes. Mais en même temps, il y a quand même un lien avec ce jugement d'autrui. Parce que Jésus nous invite encore une fois à la générosité, à partager avec autrui ce que nous avons reçu de Dieu, avoir un cœur qui aime généreusement. Il ne nous invite pas à ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent. Une loi qui apparaît dans d'autres religions. Mais Jésus l'exprime positivement. Et cela nous montre que notre esprit doit être marqué par cette générosité extraordinaire. Alors nous voulons être aimés, n'est-ce pas? Nous voulons que les autres nous disent la vérité et non pas les mensonges. Nous voulons que d'autres prennent soin de nous. Nous voulons que d'autres parlent en bien de nous plutôt que de nous médire. Nous voulons que d'autres nous pardonnent nos nombreuses fautes et faiblesses. Nous voulons que d'autres nous montrent de la compassion, de la clémence, de la douceur. Nous voulons que d'autres nous aident à grandir dans la foi. Alors cette liste pourrait être longue. Jésus nous invite à nous qui sommes au bénéfice de la bonté de son Père, qui ont connu sa générosité, à faire de même, à montrer cette générosité aux autres. En fait, il n'y a que la bonté divine qui peut transformer nos cœurs. Nos cœurs qui sont souvent si durs et hypocrites. Il n'y a que cette bonté divine qui peut façonner notre cœur pour que nous ayons envie de montrer cette générosité aux autres. À des personnes qui, comme nous, ne sont pas méritoires, qui ne méritent pas cette faveur. C'est notre relation avec notre bon Père Céleste qui nous apprend ces choses. Alors, si vous n'avez pas encore fait le pas pour mettre votre foi en Jésus, si ce matin vous reconnaissez que vous avez besoin d'un cœur qui n'est pas dur, qui n'est pas égoïste, alors Jésus vous invite à venir à lui, à reconnaître votre misère spirituelle, votre misère morale, et à dire pardon au Père, et à recevoir son pardon. Il veut vous montrer sa bonté, cette générosité divine. Il veut que vous puissiez le connaître comme un juge qui est bon, comme un père qui est généreux. Venez à lui de manière simple, priez-lui, demandez-lui de vous donner le meilleur, c'est-à-dire une relation avec lui, le pardon, la paix avec lui. Et pour tous ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus, ben nous avons besoin de revenir sans cesse à la grâce que nous avons en Jésus, cette grâce que le Père nous donne. Nous avons besoin de voir clair sur nos cœurs. Oui, si on est au Seigneur, s'il nous aime, s'il nous accepte ce matin, ce n'est pas qu'on soit meilleur que les autres. Loin de là, loin s'en faut. C'est uniquement parce qu'un beau jour, il nous a appelés. Et nous n'avons pas pu résister cet appel. Il nous a revêtus de la justice de son Fils. Il nous a accordé son plein pardon. Ce pardon que Jésus a gagné pour nous à la croix. Et notre hypocrisie ne peut pas résister à la lumière, à la chaleur de la croix. Elle fond, elle en est détruite. Parce que c'est là, au pied de la croix, que nous apprenons la vraie humilité. Combien Dieu nous aime. Combien nous ne méritons pas cet amour. Alors, à la lumière de la croix, apprenons-nous à penser, à parler et à agir envers autrui avec cette générosité. Je vous invite à la prière. Prions. Notre Père, tu connais nos cœurs. Tu vois que si souvent nous sommes si hypocrites, nous jouons un rôle. Nous oublions la grandeur de ta grâce. Nous oublions que nous ne méritons pas cette grâce. Et nous commençons à être durs avec les autres, à les critiquer, à être plus durs avec leurs péchés que les nôtres. Père, nous voulons te demander de nous pardonner. Pardonne-nous nos fautes. Et notre Père, aide-nous à pardonner ceux qui nous offensent. Aide-nous à avoir un regard généreux, vraiment avec une libéralité extraordinaire. Père, nous avons besoin de ton aide. Façonne nos cœurs par ta grâce pour que nous puissions aimer généreusement, parler de manière généreuse des autres. Nous avons besoin de ton aide cette semaine. Nous t'en prions. Amen.